surtout avant d'entrer en scène. Pour avoir les jambes et être saignant comme une durée. J'ai de la peine, mais je sais bien malheureusement qu'on sera jamais maillot jaune pour l'arrivée sur les champs. Le
beat, tu cherches tes problèmes.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des deux centraux ou dominants, celle qui s'exerce jour le jour, elle-même, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à l'économie.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. C'est l'émission Angle Mort ce soir.
Bonsoir, ce soir on est un petit peu nombreux. On se retrouve ce soir pour parler de zombies. La chronique zombie, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais ce sera pour parler en fait du travail aujourd'hui. On va s'intéresser plus particulièrement à la question de la pénibilité au travail. Par l'intermédiaire d'un travail syndical, on a invité ce soir Raphaël, qui viendra nous parler d'un travail qui est effectué au sein des CHSCT. Alors les CHSCT, ce sont les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, si je ne me trompe pas. Et on va aussi tenter dans un deuxième temps de s'interroger sur les liens qu'il y a entre la domination au travail et la hiérarchie au travail vis-à-vis justement donc de cette pénibilité au travail. Et on va essayer de rebondir sur quelques questions improvisées avec le feu collectif anti-hiérarchie. Et donc ce que je propose, c'est tout de suite une petite pause musicale pour s'échauffer la voix.
Au départ des courts-circuits, au croisement des contraires, au carrefour des massacres.
Compose CVI de Deck, un groupe de punk américain.
Oui, alors donc aujourd'hui on va s'intéresser à la pénibilité au travail et donc on a le plaisir d'accueillir Raphaël. Merci d'être venu.
Bonsoir. Ben, merci de m'avoir invité.
Donc Raphaël qui est militant syndicat et qui siège donc au CHSCT qui sont donc les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ouais.
Et qui a mené donc une enquête sur la pénibilité au travail dans le département d'anglais à l'université. Mmh. Et donc qui va nous parler en fait un petit peu de cette enquête qui est en cours, qui n'est pas terminée, mais qui peut-être nous révéler un certain nombre de choses sur la pénibilité au travail et donc peut-être permettre de faire émerger quelques questions autour de la pénibilité et peut-être, donc, comme je disais tout à l'heure, dans un deuxième temps, autour de la domination. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans l'enquête, il est peut-être nécessaire de revenir un petit peu sur ce que sont les CHSCT, tout le monde ne les connaît pas. Et donc ma première question, elle est autour de ces CHSCT, quels sont leurs rôles et comment ils sont arrivés à la fac?
Oui. Alors, les CHSCT, donc c'est un sigle un peu barbare, donc pour Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail, c'est des structures, en fait, des instances qui existent dans le secteur privé depuis assez longtemps, c'est depuis les débuts des années 80, et qui ont, en fait, en gros, comme mission de base, de rappeler à l'ordre, mais c'est une instance consultative, l'employeur en matière de tout ce qui est obligation de moyens, de tout ce qui est sécurité des machines, etc. Et puis s'il y a des changements d'organisation de travail, normalement le CHSCT doit être consulté. Et donc en fait tout ça repose sur le code du travail. Et donc c'est une sorte d'organe interne où il y a des représentants syndicaux. Donc ils vont rappeler que l'employeur a une obligation de moyens et de résultats.
D'accord.
Donc c'est assez fort.
D'accord. Alors justement, c'est quoi la représentation au sein de ces CHSCT? Qui c'est qui les représente? Qui c'est qui y siège?
Mm-hmm. Alors après, ça c'est un peu la difficulté de qu'est-ce que c'est qu'être représentatif, hein, parce que tout ça passe en fait par des élections. Donc aujourd'hui, il y a des élections. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ces élections permettent de dire en fait quel syndicat aura tant de représentants dans l'instance, quoi. Voilà.
Et c'est qui nous représente? Ce sont des administratifs, ce sont des ou seulement des syndicats ou...
Alors dans le CHSCT, en fait, il siège d'abord le président, qui est en fait l'employeur, des représentants des personnels par l'intermédiaire donc des syndicats, et il y a aussi des membres de l'administration. Siège aussi la médecine préventive, voilà des gens qui ont un rôle de conseil. Mais au niveau des votes consultatifs et des motions éventuelles, c'est uniquement les représentants des personnels qui votent.
D'accord, donc voilà. Les membres élus qui appartiennent à des syndicats de différentes natures.
Ouais.
Et qu'est-ce que dit la réglementation par rapport à CHSCT? Est-ce que c'est guidé? Est-ce qu'il y a un travail particulier à faire? Ou est-ce que c'est libre? Quelle est la réglementation autour de ces CHSCT? Est-ce qu'il y a... Une demande explicite, par exemple, de faire des enquêtes, ou est-ce que c'est complètement libre?
Alors, c'est dans le privé, juste pour revenir un tout petit peu en arrière. Et depuis peu de temps, donc, la réglementation a un peu changé, et la réglementation s'étend maintenant dans la fonction publique. Enfin, surtout la fonction publique d'État et fonction publique hospitalière. Alors, c'est à ce titre-là du coup que je suis maintenant impliqué là-dedans. Dans la réglementation, en fait, on est invité à faire des enquêtes, c'est-à-dire d'aller, c'est ce qui me semble très intéressant, en fait, aller auprès des salariés, auprès des agents, pour que, en fait, ils nous fassent part de comment ça se passe sur le terrain, quoi, une échelle très microscopique de leur travail. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant au niveau du contact. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en tant que mandat permanent. On essaye de retrouver un contact avec vraiment les gens pour que vraiment on porte vraiment leur parole de ce qu'ils vivent au quotidien et pas seulement qu'on reste sur des discours un peu généraux. Voilà.
Alors sans vouloir trop amorcer la discussion de tout à l'heure sur les rapports de domination, les rapports hiérarchiques, est-ce que déjà on peut pas noter des éventuels rapports de force qui pourraient y avoir en fait au sein de ces conseils, je ne sais pas comment on les appelle, lorsque vous réunissez des assemblées plénières peut-être? Est-ce qu'il n'y a pas des rapports de force justement entre le président et les représentants? Est-ce que le président n'a pas un droit de veto ou est-ce qu'il ne va pas mettre des bâtons dans les roues? Mais il y a aussi peut-être éventuellement un rapport de force en fait entre les différents syndicats, parce que j'imagine que la fourchette de représentativité est très large, doit aller jusque de Sud à l'UNSA. Et j'imagine aussi peut-être des rapports de force entre les différents statuts qui sont représentés.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, ce sont des instances qui sont consultatives. C'est-à-dire que lorsqu'on fait remonter des éléments, par exemple, d'une enquête et qu'on les présente en plénière, qu'on dise attention, éventuellement même la vie des salariés en jeu ou leur santé ou... il peut très bien apparemment nous dire que bon, on vote, mais ça en fait ça n'a aucune conséquence. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a en termes de rapport de force, normalement les procès-verbaux, donc c'est les documents qui, suite à ces réunions plénières, sont envoyés systématiquement à l'inspection du travail. Et si jamais il y a après une condamnation à faire, la première étape, c'est l'inspection du travail. Donc, il y a un peu au niveau des CHSCT, c'est qu'on monte en fait des dossiers, c'est un peu du travail de fourmi. Et en parallèle, ce travail très juridique, il se fait en contact avec évidemment les salariés et en espérant qu'il y a aussi une mobilisation qui se crée. Voilà, il y a les deux volets. Donc, au niveau rapport de force, petit, il reste modeste, mais il est comme ça. Et après, entre syndicats, il est clair qu'on n'a pas, on s'en fout, toujours la même vision des choses. Et dans les votes, il faut très bien qu'une motion ne soit pas suivie. Voilà, il y a un certain nombre d'endroits où en fait, ces CHSCT, on peut les surnommer des CHSCT patronaux, où certains représentants jouent un peu le jeu en étant un petit peu mou, disons, pour caricaturer, et essayent d'un peu couvrir une politique on n'est pas vraiment dans la lutte, quoi. On essaye d'accompagner, en fait. Mmh.
Et du coup, alors pour rentrer dans un cas concret, peut-être qu'on peut parler maintenant du travail que vous avez réalisé il n'y a pas longtemps, qui est encore en cours. Un travail qui, si j'ai bien compris, a consisté à réaliser une enquête dans le département d'anglais à l'université. Et donc, peut-être tu pourrais nous expliquer dans un premier temps comment ce travail syndical a débuté.
Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, ces CHSCT, c'est assez nouveau dans la fonction publique. Avant, c'était des CHS. Donc maintenant, explicitement, dans le nom de l'instance, il y a conditions de travail. C'est en ça que, pour nous, c'est un intérêt nouveau, même si par ailleurs, toutes les dispositions du Code du travail ne sont pas transposées. Donc en fait, on a un peu moins de... On est un peu freiné, hein, par rapport au privé dans ce qu'on veut faire. Et donc, en fait, on a été alerté parce que dans ce service-là, en fait, il y avait une militante de notre syndicat qui nous a un peu expliqué, au départ, de façon très informelle, en réunion syndicale, hein, comment ça se passait. Et en fait, les enseignants, pour des raisons qu'on a découvert au fur et à mesure, avaient des problèmes, en fait, de dos. Et comme ça a l'air comme ça un peu anodin, en fait, ça, au bout d'un moment, ça peut complètement pourrir la vie. Et en fin de carrière, ça peut être vraiment terrible, quoi. Donc Voilà, et il se trouve que c'est, l'idée, c'est pas qu'on en reste à un échelon individuel, parce que ça nous arrive tous à un moment d'avoir un peu mal au dos, mais c'est qu'à un moment, c'est lié aux conditions de travail, donc l'organisation du travail doit être vraiment interrogée, quoi. Et donc, on a commencé par ce qu'on voulait, dans cette première enquête, qui est en fait, on expérimente, hein, on n'a pas, à notre échelle, on n'a pas d'expérience avant ça. On a trouvé intéressant, important en fait, que l'initiative des salariés, en fait, c'est qu'ils nous sollicitent, qu'ils commencent par nous expliquer un petit peu, puis qu'ensuite, on porte ce courrier et cette parole des salariés au CHSCT pour faire voter une enquête. Et à partir de là, on a élaboré une sorte de questionnaire pour le groupe d'enquête, donc les membres du syndicat, de façon à ce que on puisse recueillir la parole des salariés un peu sur tous les sujets de leur activité, quoi. C'est-à-dire que un entretien et un autre soient pas complètement différents, puisqu'après il faut bien qu'on fasse une synthèse. Voilà, donc ça nous a un petit peu aidé. Et donc on a fait une dizaine d'entretiens, qui chaque entretien dure 2 heures. Voilà, donc c'est quand même assez approfondi. Et on remarque souvent que les agents sont assez contents de au moins au départ de parler de leur travail, parce que ces espaces de dialogue sur le travail, sur le travail réel, ils deviennent assez rares, en fait, hein, avec l'intensification du travail.
D'accord. Et alors, du coup, je pense que quand même 10 entretiens sont suffisants pour avoir une petite idée, déjà, de la pénibilité qui a été exprimée dans ce département d'anglais. Et est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots, justement, sur ces entretiens, ou plutôt sur ce qu'ont donné en fait ces entretiens? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous pouvez tirer de ces entretiens et qui révèlent pourquoi en fait ces profs d'anglais expriment un mal de dos récurrent?
Alors c'est vrai que cette question paraît un peu farfelue, même au départ. On se dit, mais pourquoi est-ce que des profs d'anglais ont mal au dos plus que d'autres personnes? Et en fait, c'est quand on regarde un petit peu, c'est que déjà dans le contexte de l'établissement, ce sont des personnels qui ont des enseignants qui ont un service d'enseignement qui est au moins 2 fois plus important en nombre d'heures que d'autres enseignants. Voilà, ça dépend du statut, je ne vais pas revenir du détail, et que par l'organisation du travail, de gestion des salles, en fait, ils sont amenés à se déplacer plusieurs fois par jour avec du matériel assez lourd, des casques, des vidéoprojecteurs, des choses comme ça, sur plusieurs centaines de mètres, à travers différents bâtiments, et en situation de stress. Et donc, ça, c'est un facteur, par exemple, amplificateur, le stress, par rapport à ce qu'on appelle un gros mot, c'est les troubles musculo-squelettiques. Voilà. Et donc, mettre à jour ces situations de stress avec des emplois du temps extrêmement contraints, le fait qu'il n'y a pas de labo de langue et pas de salle rassemblée, ça, c'est un élément important, concret à mettre en avant. Et voilà, c'est que nous, on commence à dire que voilà, c'est un dialogue entre ces enseignants et nous, hein, qui fait qu'on va mettre ça en avant et dire que c'est impératif que, par exemple, il y ait rassemblement de ce matériel, et puis qu'il est quand même à disposition, parce que le fait qu'ils aient beaucoup de matériel, ça vient aussi de la conception qu'ils ont du métier, c'est-à-dire de ne pas faire des cours avec simplement des brochures toutes prêtes, voilà. C'est aussi récupérer des vidéos sur Internet sur un tas de sujets d'actualité, même parfois social. Voilà, donc c'est l'idée qu'ils font de leur travail, leur fait qu'ils ont besoin de matériel, mais que ce matériel, ils le charrient avec eux toute l'année, la journée.
Et du coup, en fait, s'ils ont beaucoup d'heures d'enseignement, j'imagine qu'ils doivent exprimer aussi des difficultés à faire d'autres projets, parce que finalement, déjà, les charges d'enseignement des enseignants-chercheurs sont assez importantes. Mais s'ils ont le double, cela, ça veut dire en fait qu'en termes pédagogiques, ils doivent très peu pouvoir développer des choses nouvelles. Et donc, est-ce qu'ils ont aussi exprimé ce type de difficultés?
Voilà, c'est tout à fait. Alors, c'est vrai que le problème souvent au départ, c'est une douleur physique, mais en fait, ça, derrière, quand on gratte un petit peu, il y a aussi des frustrations parce que, vu qu'ils sont quand même assez stressés, ils se déplacent beaucoup, c'est très difficile d'élaborer des projets collectifs pédagogiques. Donc, ils se rassemblent un petit peu au hasard. Il n'y a pas vraiment de lieu d'élaboration collective de l'enseignement. Et ce qui a... Donc, ça génère aussi une certaine souffrance au travail. Quoi.
Et puis, j'imagine qu'en plus, avec les nouveaux objectifs de l'université, d'avoir que chaque étudiant ait un nouveau type, un niveau de type TOI, etc., j'imagine que du coup, ces objectifs-là deviennent des contraintes, en fait, et que ça entraîne finalement une limitation de leur projet pédagogique, parce qu'ils sont là finalement que pour former des étudiants à un examen particulier qui devient une exigence nationale.
Voilà, alors c'est vrai qu'eux, ils ont une conception du travail où ils ont envie de réactualiser leur enseignement, à mettre d'eux-mêmes dans... à stimuler la réflexion des étudiants, enfin des choses qui ne sont pas formatées. Mmh. Et dans l'université, surtout au niveau licence, les objectifs, c'est plutôt les objectifs de certification par rapport à des tests... qui sont comme ça très formatés, en plus en arrière-plan parfois des tests qui sont mis en place par des boîtes privées en fait. Et ça se fait dans un cadre d'enseignement public. Donc ça les met en tension, ça peut les mettre en tension et ça c'est aussi un générateur de certaines souffrances au travail. Ouais.
D'accord. Comme l'heure avance, peut-être qu'on va passer au bilan, en fait. Enfin, peut-être pas un bilan, mais des suites que tu penses qui pourraient être données, en fait, à ce type d'enquête, qu'on pourra peut-être généraliser un peu plus sur le travail des CHSCT dans un deuxième temps. Donc, à ton avis, en fait, quelles vont être les conséquences, finalement, de cette enquête? Est-ce qu'il y a de véritables conséquences possibles?
Oui. Alors, ça, c'est... Concrètement, déjà, nous, c'est important qu'on fasse une synthèse la plus complète possible de ce qui nous a été dit, et que même avant de la présenter en plénière, on revienne vers les salariés, vers les agents, pour qu'on leur demande si on n'est pas en train de trahir ce qu'ils nous ont confié, en fait, voilà. Et après ça, il y a un petit travail juridique dans la synthèse qui est de mettre en lien les obligations de l'employeur avec ce qui n'est pas fait, en fait. Et donc, après ça, on demande des choses parfois un peu, un peu bureaucratiques, qui peuvent parfois être un peu bureaucratiques, comme la mise à jour de ce qu'on appelle les documents uniques d'évaluation des risques. Et tous ces documents, normalement, impliquent une obligation de suivi. On ne peut pas simplement mettre une ligne dans ce document unique et puis ne rien faire. Après, il faut faire un plan, normalement, tout ça est en copie de l'inspection du travail. Ça, c'est l'aspect un peu un petit peu bureaucratique, il faut dire. Pas toujours passionnant, mais important à faire. Et puis après, il y a aussi ce prolongement de l'enquête, c'est-à-dire que ce lien qu'on a établi, on va essayer de faire en sorte que si les choses ne bougent pas, comme ils ont peut-être davantage conscience que les problèmes qu'individuellement ils vivent, leurs collègues qu'ils n'arrivent pas toujours à voir vivent aussi la même chose, que peut-être il y a une mobilisation à faire, voilà.
D'accord. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est de réserver une prochaine question qui sera encore en lien avec la pénibilité au travail après une pause musicale. Et j'enchaînerai directement par une question très compliquée.
D'accord, alors faudra vous accrocher.
Et on laissera donc une pause musicale le temps de réfléchir.
Entendu. Très bien, Fabien. On lance une musique.
Prochain morceau, c'est...
On verra, on dira.
On verra, d'accord.
Écoutez ça.
chemin.
C'était Curtis Mayfield avec Pusherman.
Donc vous êtes toujours sur Radio Canu et dans l'émission Angle Mort et on va continuer cet entretien, interview avec Raphaël. Eric nous a rejoint parce qu'il est au taquet pour venir répondre à toutes ces questions.
Pas du tout.
Et moi je voulais continuer sur une petite... c'est pas une réflexion, mais une petite interrogation concernant ce que tu viens de nous dire, qui montre en fait que le travail que tu as mené, qui est sans doute le travail en général au sein des CHSCT, est un travail très très long. Très très long, qui va mobiliser beaucoup d'énergie de la part des militants. Et donc je me demandais en fait en combien en fait cette énergie qui est donnée à ce travail syndical ne va pas détourner en fait en partie les militants d'un travail syndical qui pourrait être beaucoup plus global et qui permettrait de faire changer plus radicalement les politiques. Bon, point d'interrogation.
J'avais pas entendu en fait. Ouais, mais ça c'est vrai, une vraie question de fond. Parce que c'est vrai que, apparemment, quand on parle de ça, cette souffrance au travail, on se dit qu'on va se diluer dans du détail, dans des choses qui risquent d'être très individuelles, et que du coup, mettre l'énergie là, c'est peut-être la mettre moins sur des enjeux peut-être immédiatement plus importants, enfin, par exemple lutter contre l'accord national interprofessionnel qui vient être signé, faire des propositions beaucoup plus globales et plus politiques finalement, en tout cas en apparence. Et en fait, il y a un problème aussi que, à un moment, on a un peu quand même une sorte de perte de contact avec les gens, vraiment de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, moi, au bout d'un moment, j'avais besoin de retrouver un peu le sens de ce que c'est que le travail syndical et de tout. Et en étant plus sur des choses à petite échelle comme ça, de malgré tout garder, tout en gardant en tête que, par exemple, ce mal de dos là que des enseignants ont, d'une certaine façon, si je fais un peu un raccourci, je suis désolé de la formule, mais c'est un peu le poids de la dette. D'une dette publique qu'on croit que c'est nous qui devons la payer, qu'ils ont un peu d'une certaine façon sur leur dos en fait. Hein. Donc je veux dire, c'est jamais complètement et pas du tout déconnecté à des enjeux plus globaux. Ça, c'est sûr qu'il faut jamais, à mon avis, le perdre de vue quand on fait un travail de terrain.
Alors moi, je pose pas cette question par hasard. C'est aussi parce que on est à un moment où le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Fioraso, a fait une nouvelle loi, et que cette nouvelle loi, en fait, n'est que la prolongation en fait de la LRU. Avec d'autres mots, mais il n'est que sa prolongation et
donc,
qui est
la LRU pour replacer. Donc peut-être tu très vite, hein, sans mais. Non, tu veux que je le fasse moi?
Ah bah vas-y, je t'en prie, la LRU. Parle-nous de la LRU.
Non, parce que peut-être tout le monde... La LRU... Donc une... loi de la responsabilité des universités.
Voilà, qui a provoqué l'autonomie des universités, qui enfin, a en fait dite. Donné... une autonomie financière en fait, mais qui a provoqué beaucoup de problèmes dans un certain nombre d'universités qui avaient plus d'argent, mais qui a aussi en fait permis une certaine libéralisation en fait de l'enseignement supérieur avec la création de fondations qui permettent de faire entrer des capitaux privés dans les universités, mais c'est aussi le fait que les conseils au sein des universités ont été modifiés avec une représentation beaucoup plus importante par des acteurs privés, donc voilà, l'ouverture à des enseignements de type Sanofi ou des enseignements de type Coca-Cola. Cette nouvelle loi en fait est pas condamnée, mais elle est critiquée en fait par l'ensemble des syndicats parce que elle ne répond qu'à ce qu'avait fait le précédent gouvernement. Et en fait, ma question était donc, on est en fait potentiellement dans un mouvement de contestation par rapport à cette loi. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui essayent d'organiser des assemblées générales. Et pourtant, elle ne marche pas. Elle ne marche pas, il y a très peu de mobilisation contre cette loi, ce qui n'est pas le signe que la loi est bonne, c'est juste le signe peut-être d'un certain épuisement, et peut-être je pense aussi, mais on en parlera peut-être plus tard, d'une certaine difficulté en fait à trouver les mots contre la loi et donc la difficulté de mobiliser. Mais donc du coup, c'est pour ça que je posais cette question, c'est qu'en fait on peut se demander aussi en combien en fait un travail plus ponctuel ne pourrait pas... désengager une force militante vers ces luttes plus globales.
Oui, alors c'est vrai qu'on assiste clairement, il y a une sorte de lassitude, il y a un manque de confiance aussi dans les syndicats, parce que tu disais tout à l'heure que l'ensemble des syndicats étaient contre les rues. En fait, pour préciser un tout petit peu, malheureusement, ils ne sont pas tous, et même ceux qui sont contre, pas forcément dans la même chose en tête pour qu'est-ce qu'il faudrait à la place. Et ça, du coup, parce qu'en fait, on est face à la RU, mais actuellement, il y a les, les rues numéro 2, enfin, on a un empilement de textes comme ça, c'est dans l'enseignement supérieur, mais dans tous les secteurs, finalement, c'est un peu ça, avec du vocabulaire très technique, des modifications de textes au dernier moment, et du coup, c'est extrêmement complexe, enfin, je veux dire, même quand on est militant, on est censé être au courant. Au bout d'un moment, on peut arriver que même qu'on lâche prise. Enfin, pour moi, par exemple, c'est mon cas sur les derniers développements de la loi. C'est un peu la nausée. Enfin, plutôt que de... Et derrière, quand même, les logiques, elles sont toujours un peu les mêmes. Hein. C'est quand même une privatisation qui est plus ou moins larvée. Hein. Il y a toute une conception idéologique derrière. C'est de la pression financière indirecte. C'est des pressions aussi hiérarchiques cachées, des gouvernances.
Si je peux me permettre de t'interrompre, est-ce qu'on ne peut pas justement voir, dans cette souffrance au travail, une des conséquences, justement, de rapports hiérarchiques qui sont beaucoup plus importants? On peut se demander si ces évaluations qui sont de plus en plus nombreuses sont pas source de pression supplémentaire auprès des employés, des travailleurs et travailleuses de l'université.
C'est clair que pour nous, cette souffrance au travail, elle est l'écho de l'intensification du travail aujourd'hui. Du peu de cas qui est fait aux conditions de travail, hein, parce que même la priorité, c'est l'emploi. Mais l'emploi et le travail, c'est deux choses en fait qui sont différentes. Et donc c'est clair qu'il y a un lien entre cet aspect micro auquel on assiste et qu'il faut en fait bien mettre à jour et bien mettre en avant. C'est pour ça que les CHSCT, à leur petite échelle, sont le moyen peut-être de montrer et de mettre bien en avant toutes les conséquences délétères que peuvent avoir ces réformes, parfois dans un vocabulaire un peu clinquant, un peu brillant, un peu, voilà, très, à la limite séduisant, quoi. J'ai peut-être pas répondu à la question.
Peut-être pour la repréciser, est-ce qu'on peut faire un lien très rapidement entre l'augmentation des logiques d'évaluation qui sont fortes dans l'enseignement supérieur, mais aussi plus largement dans la fonction publique, et une augmentation de formes de souffrance au travail ou de formes de pénibilité ou de... C'est des liens qui sont souvent difficiles à mettre en évidence parce qu'on manque souvent de recul, tout ça. Mais est-ce que du coup, dans votre réflexion, il y a cette idée-là?
Disons qu'on en est convaincu. Maintenant, moi, j'ai pas du tout en tête les liaisons directes sont un peu difficiles à faire. Donc, je pense que justement, c'est important au stade où on en est, de faire une analyse plus approfondie sur chaque cas, sur chaque service, pour ensuite retisser le fil, plutôt que partir a priori sur sur l'évaluation en général.
Alors, peut-être pour enchaîner justement avec ce que tu disais, ce que je vous propose, c'est de vous poser une question en l'air. Et puis, Alexia, tu pourras enchaîner sur une chanson. Est-ce que...
Bon, fait une chanson ou un morceau, je ne sais pas bien ce que tu vas passer.
Une question qui m'obdubile depuis au moins 10 minutes, c'est...
Oula.
C'est que je me demande en fait si le transfert d'un système basé sur une hiérarchie de rapports... Non, ça ne veut pas du tout à la radio.
Ça
ne
va pas du tout.
Donc le transfert basé sur une forme de hiérarchie.
Là, je voulais donner une question un peu compliquée pour que vous ayez le temps de réfléchir pendant la... Alors je vais la lire. Le transfert d'un système basé sur une hiérarchie de rapport humain à une évaluation qui est presque anonyme, qui répond à des critères managériaux, n'est-il pas révélateur d'une volonté d'étouffer plus efficacement les rébellions?
Allez, donc je propose Raphaël, tu peux la lire.
Allez. Je vais la lire.
Ce sera mieux. Ouais. Vas-y,
un petit morceau.
Nous marchons, nous autres, sur sa peau de terre et de roche, sur le granit rose, le sang. sable rouge dans ses filons d'argent. Sur ses décharges publiques, nous errons sur ses collines saines et douces, sous le soleil exactement. Pas à côté, pas en dessus. Le vieux monde se moque, nous l'entendons pas rire. Le vieux monde se moque, nous l'entendons pas rire. Chair à canon, érigeant des tumulus et des sanctuaires, adorant des dieux impossibles et le flouze encore. Nos villes balayées par les vents venus du désert, où d'autres hommes boivent du sable. Tu peux rêver, voyageur, ça mange pas de pain. Le vieux monde se moque, nous ne l'entendons pas rire. Le vieux monde se moque, nous ne l'entendons pas rire. Baleine franche, un morceau de poisson séché, un bout de chien et l'esprit du renard. Nous autres, encore, nom de Dieu! Crache-lui pas dessus, connard. À relever la tête, va y avoir du grabuge, va y avoir du grabuge. Procédons à la répartition des richesses.
C'était les Barbarins Fourchus avec Le Vieux Monde.
Donc vous êtes toujours dans l'émission Angle Mort et on revient à notre petite discussion et cette question, question qui a déjà provoqué la discussion en fait pendant la pause. Je vais essayer de la reformuler de façon un peu plus simple peut-être. Ma question elle était de savoir en fait s'il n'y avait pas eu une modification en fait dans les modalités d'évaluation, c'est-à-dire qu'auparavant, je parle de l'université, hein, bien sûr, je ne veux pas généraliser, mais avant, les rapports hiérarchiques se faisaient souvent de façon humaine, on va dire, c'est-à-dire entre individus qui se voyaient. Et de plus en plus, j'ai l'impression en fait, que ces évaluations elles se font de plus en plus dans l'anonymat, c'est-à-dire que, par exemple, des évaluations d'enseignants-chercheurs, de chercheurs ou même d'ingénieurs vont se faire sous la forme de rapports, il va y avoir des entretiens auprès des administratifs qui vont se faire pas forcément par le supérieur hiérarchique direct. Et donc je me demandais en fait si justement cette modification dans les modalités d'évaluation n'était pas en fait une très bonne stratégie de la part de nos employeurs pour justement éviter en fait toute
toute confrontation en fait, et donc je vous laisse répondre à cette question. Enfin, s'il y a une réponse, après on peut élargir éventuellement le débat. Hein, mais
alors après, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de plus en plus d'une sorte de hiérarchie qui est sans visage, parce qu'avant on était presque plus bugne à bugne en fait. Ça avait, les gens vous étaient plus personnalisés. Et là, c'est vrai que les évaluations, c'est, enfin, on parle beaucoup d'experts hein, qui viennent évaluer le laboratoire, qui viennent, ça contribue aussi par rapport à la réponse à des appels d'offres, à savoir quelle quantité d'argent va recevoir tel projet, etc. Donc ça, c'est un mode d'attribution des moyens et puis de jugement qui est assez qui se fait dans un anonymat qui est pas forcément très très sain en fait hein. et du coup on sait pas toujours à qui s'adresser finalement, enfin c'est un petit peu confus, qu'on manque de prise, ça tu disais tout à l'heure que ça rendait les rébellions éventuelles plus difficiles. Donc de ce côté-là, je suis bien d'accord. Simplement, aussi, ce qu'il y a, c'est que les évaluations, les critères d'évaluation ne sont pas discutés collectivement. En fait, ils tombent du haut. Donc c'est à la fois c'est pas une évaluation sociale, parce qu'une évaluation, si c'est vous évaluer collectivement une politique publique, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire,
à la limite, ça, c'est, oui,
bon, voilà. Ça, mais là, c'est des évaluations individuelles sur des critères qui ne sont pas discutés, en fait. Mm-hmm. Hein. Et c'est là qui viennent du ministère. Pour le coup, on retrouve la hiérarchie.
Très quantitatif, pour le coup, aussi.
Et très quantitatif.
Le nombre de publications.
C'est ça, et qui ne prennent pas en compte le travail réel, mais uniquement le travail prescrit. Et d'où aussi le lien avec CHSCT, où on veut revenir. Parce qu'il y avait vraiment fait un travail réel.
J'ai l'impression aussi que dans la volonté de ces gouvernements, hein, en fait, à garder en fait le pouvoir et à le laisser en fait à un certain nombre de technocrates, il y a aussi caché là derrière en fait une certaine domination par le langage, c'est-à-dire que j'ai l'impression que en fait ces rapports de domination, ils s'entretiennent aussi par le développement d'un certain vocabulaire que je pourrais qualifier de technocrato-managérial, dans le sens où en fait les rapports d'évaluation, il faut qu'ils utilisent un certain nombre de mots clés d'excellence, de, je ne les ai même plus en tête tellement je ne veux pas les retenir, mais tout un tas de vocabulaire en fait qu'ils s'attendent et auquel qu'il faut récupérer, qu'il faut utiliser et qui sont finalement la clé en fait pour avoir une bonne évaluation. Et moi j'ai l'impression en fait que si on les maîtrise, si on maîtrise pas ce langage, si on maîtrise pas ce vocabulaire, on aura une mauvaise évaluation. Donc il y a quelque chose qui s'entretient finalement. Il y a une volonté en fait, voilà, de créer un nouveau champ sémantique et que les personnes en fait qui ne le connaissent pas, ben, ne vont pas pouvoir être bien évaluées. Donc, en fait, ça me fait penser en fait à autre chose en fait, mais qui est en rapport quand même avec cette notion de vocabulaire, mais qui est plus général. C'est le mouvement slow science. Je pense que vous avez entendu parler, qui est un mouvement qui, voilà, un petit peu en parallèle avec la slow food, en fait, voulait en fait revendiquer en fait une science un peu plus lente, donc un peu plus intelligente dans le sens où il se posait en fait les questions de à quoi ça servait de faire de la science. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ces chercheurs qui ont initié ou participé à ce mouvement ont été mal évalués, alors qu'ils avaient des résultats vraiment très, très intéressants. Et ils ont été mal évalués. Pourquoi ? Parce que dans leur rapport, ils avaient mentionné que leur conception de la recherche était le plaisir et la créativité. Et donc, ils sont fait tomber dessus, en fait, par les évaluateurs, parce qu'ils leur ont dit, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas mettre ça dans un rapport. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande d'être compétitif. Et voilà. Et je trouve que c'est bien révélateur, en fait, de cette ambiance où on attend de nous, en fait, que de dire qu'on est excellent, qu'on est machin, et on oublie, en fait, complètement l'objet de la science, de à quoi ça sert la science, et des réflexions qu'on peut avoir autour.
Bah, c'est sûr que si on ne possède pas, si on n'applique pas un certain nombre de codes, de formats de langage, de présentation de travail, on perd des chances, en fait, d'obtenir des crédits, que le projet soit approuvé, etc. Donc même l'attribution de moyens, elle devient critique là-dessus. Donc on devient un petit peu, dans certains cas, un peu presque double personnalité, à ne pas forcément à pas adhérer à cette façon de faire, et puis en même temps, il faut bien un minimum de moyens pour travailler. Et c'est aussi ce qui génère d'ailleurs de la souffrance. Mais cette évaluation, cette vision très managériale qui est des choses, c'est clair qu'elle est. C'est une forme de domination un peu cachée. Et en plus, il faut vous dire que ça fonctionne parce que l'évaluation du travail scientifique, c'est-à-dire quand vous faites une publication, vous l'envoyez, etc., par les pairs, ça, c'est un processus apparemment normal. Mais ce qu'il y a, c'est que ça devient pour faire tout autre chose que d'évaluer le fond de la science. C'est pour évaluer le format, est-ce que c'est à la mode, est-ce que c'est... Voilà. Donc c'est un détournement, en fait, de pratiques dont on a l'habitude, et donc forcément on s'en méfie d'autant moins.
Je ne sais pas si vous vouliez rebondir, mais c'est vrai qu'il est moins une, donc du coup, on va peut-être être obligé de passer l'antenne.
Ouais.
Alors c'est dommage, on aurait pu éventuellement aller un peu plus loin, mais peut-être qu'on refera une émission sur la question.
Oui. Visiblement, peut-être qu'on peut continuer un tout petit peu.
On peut continuer 2 minutes. 5 minutes. 5 minutes, ouais.
Et justement, moi, pour parler, du coup, moi, plus, enfin, je suis en sociologie, donc. Il y a aussi ce que tu dis dans ces logiques d'évaluation. En fait, on nous met dans une situation où on a une on se débat pour des miettes. Et est-ce qu'on va jamais questionner, est-ce qu'il touche aussi la question est-ce qu'on va continuer de se battre pour des petits trucs ce qu'on questionne jamais, c'est qu'en même temps il y a certains milieux dans l'enseignement supérieur qui eux ont une profusion d'argent, comme par exemple la gestion, la discipline gestion, eux ils ne manquent pas d'argent, hein, il n'y a aucun problème, et nous on se débat pour des miettes, et c'est vrai que dans ce contexte de pénurie de postes, on est amené nous-mêmes à intérioriser, j'ai l'impression, les formes de logique d'évaluation pour être excellent, et du coup les formes de souffrance sont d'autant plus violentes que c'est souvent elles passent par de l'auto-exploitation. C'est même pas un donneur d'ordre qui va nous dire il faut que vous fassiez ci, ça dépend dans les contextes, hein. Moi je parle plus sur un contexte de travailleurs qui sont pas encore statutaires, donc qui cherchent un poste, etc., d'obliger de soi-même se faire son propre patron. Se dire non, ça j'ai pas le droit, non là il faut que je bosse ce soir, et du coup ça en devient un des trucs où c'est vrai que c'est assez mortifère pour la santé, je pense, et mentale ou autre, et c'est ça qui est aussi difficile du coup pour impulser des mobilisations dans ces milieux là, c'est cette intériorisation où on est tous en concurrence et où on va se battre les uns contre les autres pour des miettes. Et aussi une intériorisation de cette idée que, de toute façon, de l'argent, il n'y en a pas, que la science, elle est plutôt bien positionnée à ce niveau-là par rapport... Enfin, la science, le champ, voilà, la recherche, est bien positionnée par rapport à d'autres trucs de la fonction publique. Alors que non, quoi. Enfin, de l'argent, il y en a. Enfin, l'argent, il y en a pour faire n'importe quoi, pour créer des derniers trucs dont on n'a pas besoin. Voilà. Et l'essentiel de l'argent qui est investi dans la recherche, elle est investie aujourd'hui dans la recherche privée, si je me trompe pas, dans le soutien à la. Voilà. C'est parce que ça m'avait. Sur ces questions de souffrance.
Oui, j'aurais bien aimé rebondir, mais je crois vraiment que là, on dépasse.
Ah oui.
Donc, du coup, merci. Merci à toi, Raphaël, d'être venu ce soir.
Merci à vous.
Je pense qu'on continuera la discussion une prochaine fois.
Carrément.
Hein. Et donc, on se retrouve peut-être la semaine prochaine en équipe réduite. Et je pense qu'on va terminer par un dernier morceau, Alexia.
Voilà, ouais, on va passer un morceau de Zéro.
Zéro.
Ouais, on va passer Drag Queen Blues.
Très bien.
Voilà. Et en attendant, on laisse les copains de la causerie s'installer. Et voilà, qui vont nous faire une nouvelle émission. À bientôt.
Au revoir.
Salut.
Salut.
Sweet, baby, sweet on me.